Merci d'écouter Radio Okapi et de poursuivre ce programme avec nous. Congolais de l'étranger reçoit aujourd'hui l'apôtre Ephraim Dieudonné Alanga, Congolais qui vit à l'étranger depuis près de 17 ans. Il nous dit comment il est parti, pourquoi et comment il vit en Belgique pour l'instant. Bonjour apôtre.
Bonjour Julie, comment vous allez?
Bien, merci, et vous-même?
Je vais bien. Très enchanté d'être aujourd'hui en direct sur Radio Okapi et je salue tous les millions d'auditeurs de Radio Okapi, la radio que nous aussi ici en Europe, nous nous confions pour avoir des informations viables.
Vous êtes en Europe depuis près de 17 ans. Vous êtes arrivé d'abord en France. Racontez-nous comment c'était, pourquoi vous êtes parti d'ici et comment vous êtes arrivé là-bas.
Non, Julie, moi, j'étais, tu vois, dans la période de l'effervescence de la démocratie, j'ai soutenu Tshisekedi et que je me suis engagé à la politique. Mais certainement, on m'a dit, écoutez, vous n'avez pas d'argent, vous ne saurez pas faire la politique. Et c'est comme ça que j'ai quitté le Congo pour aller en Angola pour vendre certains articles, pour avoir un peu d'argent, pour avoir les télécels. Vous vous souvenez au moins des télécels, il fallait avoir les télécels à ce temps-là. Je suis parti en Angola, et puis après on a connu la guerre, j'ai perdu beaucoup d'argent, je ne pouvais plus retourner au Congo, je suis resté là-bas en Angola, en brousse, et puis après j'ai été atteint par la méningite, je ne marchais plus, j'étais paralysé, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et je suis resté là-bas, et puis à un moment donné, j'ai commencé à marcher, j'ai fait des affaires, j'ai travaillé dans la communication par satellite. Alors que j'avais un peu d'argent, voilà, je voulais rester pour continuer à acheter des diamants, ça n'a pas pu marcher, j'ai encore sauté sur une mine, donc les mines sont les explosions que les gens mettent, les cas diverses, mais pour attaquer les autres, donc on était pendant le temps de la guerre en Angola, de l'UNITA et d'un PLA, donc les gens de l'UNITA ont mis la mine, et moi j'ai explosé, donc ma jambe droite s'est fracturée et mon dos aussi, et c'est dans ces conditions que souffrant en Angola, on voulait me couper les pieds, je n'en voulais pas. Comme j'avais envie d'argent, j'avais décidé de descendre en Europe pour les soins.
Vous êtes parti pour raison de santé?
Je suis venu en Europe pour raison de santé, j'avais mon argent avec moi. Je suis arrivé à Paris, malheureusement à Paris, les gens, les Congolais qui devraient me recevoir à Paris, je dis, c'est très difficile de vous raconter ce qui se passe ici. Les Parisiens, ça vit bien, ils arrivent au Congo, ça vit bien, mais la plupart dorment dans les gares, dorment dans les taudis, soit dans une petite chambre, les gens sont 20 personnes. Les gens qui avaient prétendu me recevoir ont disparu. Déjà, j'étais arrêté à l'aéroport, mais vu ma condition, on m'a libéré, je suis sorti, et comme je ne connaissais personne à Paris, j'ai appelé un frère qui était en Hollande, sa mère était morte aussi de la méningite. La même maladie qui m'avait atteint, et comme j'avais enterré sa mère avec dignité, il devrait peut-être me rendre un peu le bien pour le bien. Alors celui qui m'a dit que je viens en Hollande, c'est comme ça que j'ai quitté Paris directement pour Hollande. Et en Hollande, j'ai été opéré 5 fois sans succès, voilà. Et voilà comment l'histoire a continué jusqu'à aujourd'hui.
Alors dites-nous comment vous avez fait pour vous installer aujourd'hui en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et surtout, comment avez-vous fait pour vous intégrer en Europe? Parce que vous quittiez le Congo, un pays francophone. Vous arrivez en Angola où on parle portugais. Vous arrivez encore en Allemagne, en France, Allemagne et puis en Belgique.
Moi, j'ai compris depuis longtemps, il y a un prêtre catholique qui nous a dit la vraie intégration, c'est la langue. Il nous a parlé, j'étais encore enfant, quand il nous montrait les Chinois qui parlaient, qui étaient là. Parce que j'ai étudié au Sankourou, et j'ai étudié aussi au Kassai et à Bouindé aussi. Alors, quand je suis arrivé à Hollande, sans famille, la première chose que je devais faire à partir de mon hôpital, de mon lit d'hôpital, c'était d'apprendre le néerlandais. Parce que j'ai compris que la langue est un facteur d'intégration. Il y a beaucoup de gens, mais dans nos pays, qui ont des difficultés, qu'on ne les aime plus parce qu'ils n'ont pas pu comprendre ce facteur-là. Et donc, quand vous parlez la langue du pays, les gens vous adoptent. Donc, à l'hôpital, les gens apprenaient la langue. Et comme ils avaient vu que mon cas était très difficile et que je ne pouvais plus marcher, j'avais des assistants sociaux qui m'avaient aidé. Et donc, j'ai nous sommes allés dans une école, d'abord on appelle ça en néerlandais, Nederlands voor tweede Stalin. Donc, la langue néerlandaise comme une deuxième langue. Donc voilà. Et un truc comme ça. Donc, j'ai fait ce cours-là brillamment. Et je parle aussi anglais. J'ai aussi étudié l'anglais. Et c'est comme ça que, voilà, je me suis intégré. J'ai étudié les sciences économiques. Bon, la branche de management, donc, administration des entreprises, j'ai mon diplôme, et voilà, tout ça, ça a été possible grâce à mon apprentissage de la langue néerlandaise que j'ai parlé couramment.
C'est ces messieurs qui vous avaient accueilli, et après être sorti de l'hôpital, qu'est-ce que vous avez fait directement après? Vous avez appris les managements des entreprises, la gestion des entreprises, vous avez fait d'autres formations,
oui.
Est-ce que vous avez travaillé dans ce cadre-là aussi?
Le monsieur m'a accueilli, tout ce qu'il m'a dit, vu ma situation, parce que ma jambe pourrissait déjà, il y avait, c'était une odeur désagréable, comme je viens de l'Angola, on devait couper la jambe, et donc j'étais à l'hôpital. Lui, dès que j'étais à l'hôpital, donc, à peu près, j'ai pété à peu près, la connexion s'est coupée. Et donc, on n'avait plus de connexion, et moi, je suis resté là-bas sous les soins, et j'étais déclaré infirme ici, que les gens me pardonnent si je vais déclaré sur des commissions spirituelles, comme je priais beaucoup, j'ai invoqué le Seigneur, il y avait un jour, le 15 septembre 2002, où j'ai dit, si je viendrai, Jésus que tu entres dans ma chambre, parce que j'en ai marre. Je t'ai servi en Afrique, je suis en Europe, je t'aime, fais quelque chose. Et c'était vers 9h15 que le Seigneur a ouvert le toit de mon toit, le toit de ma chambre d'hôpital. Il m'a touché et moi j'étais déclaré infirme ma vie. Je marche jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez, quand je marche, que j'ai encore le stigmate de cet accident-là qui était trop féroce. Bien que je n'avais les disques étaient cassés, mais je suis en train de marcher. Donc tout s'est passé comme ça. Donc je quitte l'hôpital. Et qu'est-ce que je fais? Dès que j'apprenais déjà les néerlandais, je me suis donc. J'ai continué à faire l'évangélisation, j'ai parti à l'église, mais j'ai fait alors les cours de théologie. Les gens qui m'écoutent savent que j'ai étudié à Utrecht. Utrecht, c'est au centre de Hollande. Je me suis intégré et j'ai eu le diplôme de théologie là-bas. Et parce que j'ai parlé bien néerlandais, je suis le seul Congolais ou le premier Congolais qui a été reçu par celle qui est devenue la reine des Pays-Bas, la femme du roi. Sa Majesté Maxima qui m'a reconnu dans la ville où j'étais à Emmen, qui cherchait quelqu'un qui s'est intégré, c'était moi qu'on avait choisi. J'ai parlé avec elle, elle m'avait encouragé de continuer à étudier. Alors j'ai continué à étudier et voilà, j'ai fait le management, j'ai fini cela et voilà. J'ai pas travaillé dans les entreprises parce que je me suis tellement donné à la vie de l'église, ce qui était très difficile parce que je partais à l'université et je devais prendre soin de mes enfants. J'ai deux enfants avec une fille adoptive, donc voyez-vous, c'était trop difficile, mais j'ai parti à l'université. Mais au moins, j'avais déjà le diplôme de théologie et après, j'ai eu le diplôme de management. Mais grâce aussi au concours de la reine Maxima, qui est la femme du roi des Belges, non, roi des Hollandais. Donc c'est comme ça que j'étais en Hollande et j'ai dirigé une association d'aide aux étrangers. Je fais partie, soit c'est moi qui suis le seul Congolais qui est appelé l'église, la première église, Julie, qui a invité le gouvernement hollandais. Les gouvernements hollandais nous ont honorés par la présence des députés du Parlement. Et c'est après mon discours qu'on a donné des papiers à tous ceux qui n'avaient pas de papiers depuis 10 ans. On parle de cela, des générales et pardon. C'était grâce à ma démarche.
Merci à vous qui venez de rejoindre cette antenne de Radio Capi. Nous recevons un Congolais qui vit à l'étranger. Il s'appelle l'apôtre Ephraim Dieudonné Alanga. Il vit en Belgique. Il est parti d'abord en France et puis en Hollande. Il a donc quitté Luanda ou l'Angola depuis 2001 pour raison de santé, raison de maladie. Aujourd'hui, ordonné pasteur, il a fait la théologie, il a fait des études approfondies en communication. Il a également fait les management des entreprises et il travaille pour Dieu. Apôtre Ephraim Dieudonné Alanga, vous êtes là avec nous. Nous savons que vous avez une église en Hollande et puis une autre en Belgique. Vous projetez revenir au Congo, vous revenez un peu plus souvent aussi, mais vous projetez revenir aussi pour installer une église ici.
Oui, écoutez, le Congo c'est le meilleur pays au monde. Tout Congolais ne peut jamais se sentir bien à l'extérieur. Julie, je peux te rassurer ma soeur, qu'il n'y a pas un pays aussi beau que le Congo. C'est le pays que nous tous nous rêvons. Et donc, j'ai une église ici à Bruxelles. Je suis venu à Bruxelles parce que on a une église en Hollande. Je suis venu à Bruxelles pour, parce que c'est la capitale de l'Union Européenne. On a une église. Nous sommes parmi les 5 plus grandes églises de Bruxelles ici. Et nous rendons gloire à Dieu. Mais l'appel que j'ai, c'est d'être là-bas au Congo. C'est vrai que je vais de temps à autre pour des conférences, des séminaires, comme un mois passé. Mais là, je vais installer une église d'ici peu. Je crois bien d'ici 2-3 semaines, après cette émission, je serai là. J'installe l'église là-bas parce que nous croyons que notre pays est le plus beau. Peu importe ce que nous avons, l'argent, je ne parle pas de l'argent, la peine d'avoir des richesses, mais la paix du cœur, ou soit cette sécurité qu'on a en Europe, tout ça. Mais le Congo reste notre pays. Nous sommes toujours à l'aise quand on vient, on mange au Congo, on boit au Congo. C'est la seule terre où nous tous nous pensons que nous pouvons réussir dans la vie.
Vous travaillez pour la transformation des cœurs parce que selon vous, vous pensez que même si nous voulons que les Congos changent, il faut d'abord commencer par transformer les cœurs des Congolais.
Oui, j'ai écrit un livre sur les principales causes de malheur qui détruisent les grandes destinées. Et au chapitre 7, je parle de la méchanceté du cœur. Le message que je prêche, c'est celui-ci. Dieu regarde au cœur. Si vous criez, même si vous criez, même si vous voulez que Dieu vous bénisse, mais tant que votre cœur n'est pas droit devant Dieu, il n'y aura rien. J'ai expliqué dans ce chapitre comment Dieu a dépossédé ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, qui était le pays des autres. Et ce pays, la Bible dit que ça coulait le lait et le miel. Mais Dieu disait, la méchanceté de ces gens-là a atteint son comble. À cause de leur méchanceté, vous, Israël, vous allez prendre le pays et Dieu a permis qu'on les extermine. Et j'ai dit aux Congolais, nous avons les coltans, nous avons les diamants, nous avons l'or, nous avons tout ce que le monde a besoin, nous en avons. Mais on ne peut pas avancer, pourquoi? À cause de la méchanceté du cœur. Et donc, aujourd'hui, vous dites, il y a des étrangers, blabla, tout ce que les gens disent, même ici en Europe. Mais non, Dieu risque de déposséder le pays parce que nous sommes tellement méchants, pas moi, personnellement, mais j'ai dit nous, en général, les Congolais sont méchants, on n'accepte pas les uns les autres, et alors, Dieu n'a pas d'autre chose que de nous déposséder du pays. Et j'ai fait ce discours, même devant les instances les plus hautes de la République, je leur ai donné mon livre, et je recommande à tous de chercher ce livre-là, j'ai développé ce qui se passe au Congo. Si notre cœur n'est pas droit devant Dieu, nous pouvons veiller. On peut faire 30 jours de prière, on peut détruire les hôtels, on peut dire ceci, cela, rien ne changera. Le problème du Congolais, c'est le cœur. Et c'est pas mon message, si je viens au Congo, c'est pour changer le cœur et pas pour autre chose.
Je rappelle, pasteur, quand vous étiez encore en RDC, vous aviez des ambitions politiques et vous aviez abandonné parce qu'on vous disait que vous n'avez pas assez d'argent pour devenir politicien et tout. Aujourd'hui, que vous êtes à l'extérieur du pays, que vous regardez le pays de loin, pensez-vous que l'opportunité se présente pour que vous retrouviez vos ambitions politiques?
Aujourd'hui, la scène politique congolaise est la plus mesquine, c'est la plus sale au monde. Il y a trop de coups bas, il y a beaucoup de choses que je vois. Le politicien congolais n'est pas prêt à développer son pays. Il est prêt à détruire son frère. Nous les voyons. Moi, je raconte tous ces gens. Du plus haut, c'est moi, jusqu'à qui que vous pensez ici comme opposant, ou soit des prisonniers, sans dire les noms, je les raconte tous. Mais j'ai trouvé que l'ambition, elle est là. Mais quelle politique et pour quel peuple et pour quelle place politique? C'est pas question. Parce que si aujourd'hui je me dis, avec ce que Dieu a fait dans mon cœur, comment Dieu a transformé mon cœur, que je m'engage en politique, je peux te rassurer, ma soeur, que j'aurai des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'accepteront pas mes méthodes et ce que je vais amener. Et donc, je veux rester comme Martin Luther King, qui parlait comme pasteur, mais pour transformer la société. Même si au Congo, on dit, l'Église ne peut pas se mêler de la politique. Mais hier, j'ai même posté quelque chose, j'ai dit, Billy Graham s'est mêlé de la politique, il a prié pour tous les présidents, il est mort, oui, mais il était avec Martin Luther King, il avait refusé de prêcher dans une salle où il y avait la ségrégation, où les blancs étaient de l'autre côté et les noirs de l'autre côté. Et donc, pour nous, la politique n'est pas la politique pour les postes, mais la politique, à partir du moment où nous définissons la politique comme le changement de la société, la science pour changer la société, et donc cette politique, je l'accepte. Et si cette politique est pour faire des communes, en tout cas, on ne peut pas y entrer. Mais nous prions beaucoup Dieu, nous respectons les autorités, nous prions à ce que ça renaisse dans nos cœurs un certain climat, une autre atmosphère où on peut voir des gens qui s'intéressent à ce qui est bon pour le pays. Nous sommes un grand pays avec les plus petits aéroports. Un seul pays, on n'a que deux avions. Écoutez, on a tout, mais on ne sait pas les transformer. Et donc, si j'entre en politique, même si je suis pasteur, on a toujours le désir d'influencer la société. Donc, si j'entre en politique, donc, c'est pour influencer, c'est pour éliminer la brutalité politique, mais ce n'est pas pour peut-être être avoir les pouvoirs. Ça, ce n'est pas dans ma tête, parce que le pouvoir que j'ai en Jésus est un pouvoir supérieur.
Il y a quelques années, vous étiez encore frère, tout simplement. Vous n'étiez pas encore apôtre, donc vous n'aviez pas encore en charge les frères et sœurs dans une certaine église. Aujourd'hui, vous avez une église et vous accompagnez des âmes, vous accompagnez des gens. Quelle différence trouvez-vous entre le frère ou la sœur qui prie ici au Congo ou en Afrique, disons-le, et le frère ou la sœur là-bas en Europe? Est-ce qu'il y a toujours ce même zèle? Est-ce qu'il y a différence, le même dévouement ou la même abnégation?
Ici, nous avons, par l'expérience, j'ai vu que les gens qui prient au Congo, excusez-moi si je vais offenser quelqu'un, mais j'ai dit la vérité, la plupart de ces gens qui prient pour voyager, ils prient pour les voyages. L'expérience nous a montré que dès que les gens arrivent ici, dès qu'ils sont en Europe, la première chose qu'ils font, c'est de jeter leur Bible, c'est d'être comme tout le monde. Ceux qui n'aimaient pas Fali pour pas sont dans les bars pour danser Fali, ceux qui n'aimaient pas je ne sais pas quoi sont là-bas. Et donc, ça ne m'effraie plus de voir quelqu'un qui était au Congo, qui vient ici, même les pasteurs qui sont au Congo, lorsqu'ils arrivent ici, la première chose que nous voyons, c'est la décadence. La plupart, on ne connaît même pas leurs noms, même les églises, parce que la plupart des gens prient au Congo pour venir en Europe. Cependant, il y a toujours une réserve. Il y a des gens qui viennent ici pour chercher Dieu, qui viennent ici parce qu'ils ont une mission. Mais ici, moi je suis heureux, pourquoi? Parce que je suis de ces pasteurs qui avaient comme ambition de montrer aux gens dans le monde qu'ici en Europe, on peut être ordonné pasteur et avoir une église ici et transformer le cœur des gens ici et que Dieu peut nous utiliser. On a des miracles de tous côtés. Beaucoup de gens me reconnaîtront, même les autorités au Congo. Dieu nous utilise beaucoup. Et donc, nous sommes donnés entièrement dans le sens de amener l'évangile dans le cœur des gens. Mais il y a une différence, si je peux répondre à votre question, il y a une différence totale. Quand quelqu'un quitte l'Afrique, il arrive ici, donnez-lui seulement 2 mois. Il va être un peu chaud, voilà. Mais après quelques temps, en tout cas, vous le verrez, il ne vient plus prier, il commence à critiquer les pasteurs, et puis il retourne dans sa vie ancienne. Donc la plupart cherchent les visas, cherchent les mariages, et dès qu'ils arrivent ici, la première chose qu'ils font, c'est de casser leur mariage, c'est beaucoup de choses. Et donc pour moi, le vrai combat, si je dois dire ceci, c'est la transformation de cœur. Que les gens soient au Congo, que les gens soient ici en Europe, la chose la plus importante, c'est que notre foi soit une foi claire, une foi légitime par rapport à Dieu, une fois qu'il n'est pas impliqué, qu'il n'est pas une fois en scène, mais une fois pur devant le Seigneur.
Apôtre Ephraim, vous travaillez aussi dans l'humanitaire et vous avez certains projets dans ces sens. Parlez-nous-en.
Oui, nous avons des projets d'assistance parce que moi je dirige chez l'ONG en irlandais, c'est Stiftung Tweede Kans. C'est-à-dire que l'espoir est la deuxième chance. Voilà, qu'est-ce que je fais? Personnellement, là c'est pas de moi, pas de, du projet, pas de cette ONG. Personnellement, vu que moi j'ai manqué beaucoup de gens à m'aider à aller à l'université, j'ai décidé que partout où je raconte de jeunes gens qui dépassent que ce soit 10% dans les diplômes d'État, sans corruption bien sûr, qui sont très intelligents, dont les parents sont pauvres, j'ai pris l'engagement de les envoyer à l'université. J'en ai maintenant 7, 4 ont déjà un diplôme de licence. Si notre pays était un pays qui est arrivé à un niveau de considérer non pas les relations de ceux qui commandent, qui recommandent les gens, mais les degrés d'intelligence, je pense que tous ces enfants auraient le travail. Parmi ceux qui ont eu des diplômes, il y en a 3 qui ont trouvé le travail, il y a d'autres 4 personnes qui sont encore là sans le travail. Alors, moi, dans l'humanitaire, j'ai décidé d'aider les enfants intelligents, non pas que je néglige ceux qui n'en ont pas, mais comment supporter, s'il te plaît, ma soeur, quelqu'un qui a distingué, qui a un diplôme d'État, quand il était enfant de la rue, il a foutu les efforts, il a eu son diplôme d'État, il a distingué, et voilà, il s'est paré à l'université. Moi, ça me choque, parce que moi, on a appris ici gratuitement. Et donc, pour moi, je milite pour l'école gratuite, pour l'université gratuite. Mais comme on n'en a pas encore au Congo, qu'est-ce que je fais? Avec le prix qu'on me donne, avec le prix d'argent que je gagne, je prends les enfants qui ne sont pas de ma famille, mais des enfants que je vois, les bulletins, voilà, quand on programme les résultats, j'ai pu voir à quel site il est reçu, de l'éducation nationale, l'autre a distingué, j'essaie de voir s'il a des moyens. Bon, voilà, on les envoie à l'école, ma vision, ce que mon organisation soit à mesure de financer mes 50 étudiants par année, jusqu'à ce que ces étudiants deviennent des diplômés et qu'ils soient dans l'école de l'intégrité. Et ce sont ces gens-là qui demain développeront les Congo.
Apôtre Ephraim Dieudonné Alanga, merci de nous avoir accordé de votre temps. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous puissions nous dire au revoir?
Je remercie beaucoup Radio Capi qui a pensé à moi, qui a considéré que nous avons une voix ici en Europe. Et je tiens à remercier aussi Gérard Goulard au bon Dieu. Et j'ai béni les autorités du pays. J'ai béni tous ceux qui sont au Congo, qui travaillent pour que le Congo devienne un grand pays. Je n'oublie pas la sœur Chalène Wanga qui a fait tout pour que j'entre en contact avec la radio Capi. Mais je te remercie toi aussi pour avoir donné de votre temps pour que je puisse parler aux gens. Je crois bien que le Congo avancera, mais j'ai toujours dit ceci. Si tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un, ne lui fais jamais du mal.
Merci encore.